voix nue. Toute cette semaine, Virginie Bloch-Lainé rencontre Martin Vinclair. Ce soir, Alger, Pithiviers.
Martin Vinclair, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin généraliste, mais vous n'exercez plus la médecine. Vous êtes l'auteur d'un best-seller, La maladie de Saxe, vendu à plus de 600 000 exemplaires, édité par Paul Otchakowski-Laurence, POL. Un roman qui a sûrement modifié les relations entre les patients et les médecins. Vous êtes l'auteur d'un autre best-seller, Le cœur des femmes. Vous aimez les fictions, la science-fiction, la littérature populaire. Vous êtes un grand lecteur d'Arsène Lupin, de Georges Perec, d'Isaac Asimov. Vous aimez les séries télé depuis très longtemps. Vous écrivez sur les séries télé. Depuis 2009, vous ne vivez plus en France, mais à Montréal. Vous tenez deux blogs. Un blog médical qui est très suivi et qui est une source d'information formidable et qui fait des mises au point sur les idées fausses, les idées reçues. Et un autre blog sur la littérature. Et votre écriture sur ces blogs est la même que dans vos livres, c'est-à-dire qu'elle mélange l'humour et la simplicité.
En fait, j'écris sur ces blogs comme si c'était mon journal, mais évidemment, c'est pas intime. Mais quand j'étais adolescent, je tenais un journal et j'écrivais voilà, ce que je pensais sur tel ou tel sujet. Alors maintenant, je sais que je m'adresse à des gens. Quand j'écrivais dans mon journal, je m'adressais qu'à des lecteurs hypothétiques ou un lecteur futur qui était moi-même. J'ai pas de raison d'écrire différemment. Évidemment, c'est beaucoup moins travaillé sur les blogs que dans un roman où je vais réécrire une demi-douzaine de fois au bas mot. Mais avec, y a ça aussi avec l'expérience. Je me souviens d'une époque où je me suis rendu compte qu'on pouvait me commander un article, par exemple, où je pouvais réfléchir à un sujet d'article et puis y penser pendant 2-3 jours, puis m'asseoir et l'écrire. Parce que j'avais suffisamment de bagages et d'expérience pour pouvoir faire ça. Ça n'a pas toujours été comme ça, bien sûr, mais à force, hein, on finit par, par organiser suffisamment ses idées pour savoir ce qu'on va écrire sur 2 pages ou 3 pages.
Alors, on en parlera tout au long de la semaine de l'écriture, mais d'abord, Martin Vinclair, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous trouvez la France, comment vous trouvez Paris et les Français lorsque vous revenez? Parce que là, vous êtes pour quelques jours en France parce qu'un roman sort.
Je crois qu'il y a deux choses. Ça me fait un choc culturel maintenant quand je viens ici, parce que j'ai pris l'habitude pendant 8 ans et demi, 9 ans, de vivre dans un environnement moral, culturel, quotidien, très différent. C'est-à-dire des gens très calmes, très très gentils, très courtois. C'est pas que ça débat pas, hein, au Québec. Ils disent toujours, on est trop gentil, on débat pas assez. C'est pas vrai, ils débattent, mais par exemple, on vous coupera jamais la parole quand vous dites quelque chose. Et on vous lancera jamais d'anathème en vous disant, vous êtes ceci, vous êtes cela. On dira, écoutez, je suis pas d'accord avec vous parce que mon expérience, c'est ceci, c'est cela. Et je crois que c'est pas possible de s'en rendre compte quand on ne vit pas à l'extérieur de la France un certain temps. Il y a une violence verbal, partout. Et je parle pas des gens dans la rue, hein. Je parle dans les médias en particulier. Il y a une violence verbale dans les médias, dans les grands médias où on entend les hommes politiques, etc. France Culture, France Musique, c'est plutôt des havres de paix, hein, en comparaison. Il y a une violence verbale, il y a une agressivité, il y a une... comment vous dire? Il y a une exagération de tout. Qui, moi, me pesait énormément avant que je parte. Mais qui maintenant me paraît étrangère. Vous voyez, c'est vraiment, je suis dans une autre culture. J'ai pris l'habitude d'être dans une culture dans laquelle tout le monde est calme. Alors qu'est-ce que ça me fait? Ça m'empêche pas de venir et d'apprécier les gens que je rencontre parce que je suis un privilégié. Je peux ne venir que parce que on m'a demandé de venir, parce que je vais rencontrer des gens dans des librairies, parce que je vais venir, je suis très honoré de venir à une émission comme celle-ci que j'écoutais il y a très longtemps, parce que les gens qui me demandent de venir, ils ont envie de me voir, donc forcément ça va être agréable, hein, c'est toujours agréable. Je suis triste pour mes amis qui sont en France et dont j'ai vu le moral décliner au fil des années, parce que quand je suis parti, la plupart me disaient « t'exagères », Et maintenant, c'est eux que j'entends râler après l'atmosphère. Et, bon. Donc je suis triste, mais je sais que tout le monde finit par sortir du marasme, hein, tôt ou tard. Donc je crois que là, le marasme est profond, mais quand on est vraiment au fond, on appuie sur le fond, puis on remonte. Et donc, je suis plutôt, paradoxalement, je suis plutôt plus optimiste maintenant que je ne vis plus en France, que quand je suis parti, où moi j'étais au fond du marasme, où j'avais vraiment pas envie d'être ici.
Alors, on va remonter en arrière dans votre vie, c'est la coutume, dans un voie nue.
Volontiers.
Vous êtes né en 1955, Martin Vinclair, à Alger. Mmh. Vos deux parents étaient séfarades ?
Mes deux parents étaient séfarades, oui. Mon père était né à Alger, ma mère à Oujda, mais sa famille était d'Alger aussi. Oui, mes deux parents étaient séfarades.
Votre père a été au lycée avec Albert,
Camus. Il était fils de tué comme lui, donc il était pupille de la nation. Il a joué au foot avec lui, il a écrit une très belle lettre. Camus et l'enfance et Camus et l'école. Il a même joué dans la première mise en scène de Camus, qui s'appelait Le temps du mépris, d'après Malraux, au Bain Padovani. Il a joué dedans. Donc oui, c'était un vrai Algérois.
Il était pneumologue, votre père ?
Il était pneumologue. Alors c'est marrant parce que Camus, lui, était tuberculeux. Et il est devenu enseignant sans pouvoir vraiment enseigner parce qu'il était tuberculeux. Mon père, lui, n'était pas tuberculeux, mais il est devenu médecin des tuberculeux.
Et votre mère ne travaillait pas ?
Ma mère a été secrétaire médicale pendant longtemps jusqu'à ce qu'elle se marie avec mon père. Hein, elle s'est mariée une première fois très jeune, elle avait 18 ans. Et puis elle est restée secrétaire du pneumologue qui avait été le chef de service de mon père et celui de son frère aîné à elle qui lui aussi était pneumologue. Ils étaient pneumologues parce que quand on était un juif qui faisait des études à la faculté d'Alger, on ne pouvait devenir interne et chef de clinique que dans un service qui était tenu par un patron juif. Les autres ne voulaient pas de vous. Et mon père m'avait expliqué que c'était soit l'ORL, soit la pneumologie, et il était allé en pneumo. Et il avait rencontré donc mon oncle, hein, Paul, et donc sa sœur, qui était médecin, donc sa sœur, etc. Enfin, c'est une histoire à la fois d'amitié et de famille.
Et alors, tout le monde part en 61, tout le monde quitte l'Algérie.
Nous, on quitte l'Algérie pour Israël en 61, parce que mon père avait été menacé de mort. Et comme il était sioniste et qu'il il travaillait beaucoup avec l'agence juive pour aider des juifs d'Algérie à aller s'installer en Israël, bah, très logiquement, ils nous ont emmenés en Israël. Et puis, en fait, il était un peu trop vieux pour s'installer comme médecin en Israël, parce qu'il avait déjà presque 50 ans, et ça marchait pas, donc il a décidé de repartir et d'aller s'installer en France, ce qui a été une sorte de double déchirure, quoi, à un an d'intervalle. Et on s'est retrouvés d'abord quelques mois à la Bourboule, où il n'y avait pas de travail non plus, et finalement, il a pris un cabinet médical à Pithiviers, dans le Loiret.
Et là, le fait d'être un Pithiviers, il savait.
Non, à l'époque, il ne savait pas. Il savait pas parce que c'était.
L'histoire du camp de Pithiviers.
Non, il l'a su. Je pense qu'il l'a su qu'au bout d'un an ou deux, parce qu'il continue à y avoir des commémorations. Hein. C'est pas quelque chose qu'on a caché à Pithiviers.
Il reste. Il y a un vestige.
Il y a des plaques. Ils vont même faire un musée de la déportation dans l'ancienne gare. Non, non, le souvenir était très présent. C'est simplement que ça, c'est pas sorti de Pithiviers et qu'on n'en parlait pas. On en a reparlé dans les années 90 quand des gens ont enquêté là-dessus. Mais à Pithiviers, il y avait des commémorations tous les ans. Hein. Il y avait des plaques, il y avait une rue de l'ancien camp, elle s'appelait rue de l'ancien camp parce que le camp était là. Non, il ne le savait pas au début. Il m'a dit d'ailleurs, si j'avais su, je ne serais peut-être pas venu là. Mais bon, une fois qu'il était installé, il n'allait pas repartir. Et voilà, moi j'ai grandi là-bas et j'en ai gardé de suffisamment bons souvenirs pour transposer la ville de Pithiviers dans une ville de fiction.
Et le fait d'être juif, là, à Pithiviers, ça a posé des problème
non, ça n'a pas posé de problème. Non, 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 non. Enfin, à moi, non. À mon frère, non plus.
À votre père.
Moi, à mon père, pas que je sache. Parce qu'en plus, il était, comme il était rapatrié, et qu'il y avait beaucoup de rapatriés à Pithiviers, je me souviens en particulier, il y avait deux femmes qui tenaient un café ou un restaurant où on allait manger très souvent, qui étaient rapatriées elles aussi. Il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de rapatriés, il y avait beaucoup de travailleurs algériens, hein. Et donc, il y avait des gens qui... D'abord, il n'était pas le premier rapatrié à arriver. Et puis, il y avait beaucoup de gens qui l'appréciaient beaucoup parce que c'est pas rien, un médecin. Je veux dire, il était médecin. Il a fait de la médecine générale après avoir été pneumologue. Mais quand vous avez un médecin qui comprend d'où vous venez, qu'est-ce que c'était, qui peut parler avec vous de la ville d'où vous venez ou du bon. En plus, il connaissait très bien l'Afrique du Nord. Il était allé un peu partout en Afrique du Nord, donc il connaissait beaucoup d'endroits. Il avait de la famille un peu partout. Donc c'est quelqu'un avec qui on pouvait parler de l'Afrique du Nord. Et alors non, il a pas eu de problèmes majeurs. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des conflits dans sa vie, mais ces conflits n'étaient pas liés au fait qu'il était juif directement, en tout cas.
Et le judaïsme comptait à quel point pour vos parents ? Enfin, vous avez fait votre...
Moi, j'ai fait ma bar mitzvah, mais j'ai fait ma bar mitzvah parce que c'était important pour mes parents. Je pense que j'étais déjà dans un athéisme larvé. Moi, j'ai jamais été vraiment croyant. Je croyais plus dans les romans de science-fiction que dans la Bible. Mais ça faisait partie de ma culture, hein. Je veux dire, si on me demande si je suis juif, je dis oui, je suis pas un juif croyant, je suis pas sioniste non plus, mais c'est ma culture. Et pour eux, je pense que ça comptait d'autant plus que justement ils avaient dû quitter cette culture, mais c'était un judaïsme encore une fois, méditerranéen, c'est-à-dire c'était beaucoup plus centré sur les relations familiales, les repas, bien entendu. Les souvenirs des parents et des grands-parents que sur c'était pas un judaïsme orthodoxe et refermé sur lui-même.
Et d'Israël, vous n'avez pas de souvenirs?
J'en ai très peu.
Parce que vous avez une amnésie.
Oui.
Comme Franz.
Mais Franz a une amnésie totale. Franz, dans Abraham et fils et l'histoire de Franz, a une amnésie totale. C'est cette amnésie partielle que j'ai voulu transposer parce que c'est très pratique d'être amnésique parce que, on essaye de trouver les choses dont on ne se souvient plus. Je n'ai pas de souvenirs parce que je pense que j'étais un peu jeune. Je pense aussi que tout ça s'est fait dans une atmosphère d'émotion assez importante, assez intense de la part de mes parents. Et que donc, moi qui étais l'aîné, j'avais un frère plus jeune qui était l'aîné, je comprenais pas.
Et une sœur.
Et une sœur beaucoup plus âgée, hein, qui a 13 ans de plus que moi. Qui était donc une jeune fille quand on est parti, donc elle a pas métabolisé ça comme moi. Moi j'avais 7 ans. Donc je crois que j'étais très occupé, beaucoup plus occupé par le fait de faire face à la tristesse de mes parents que de regarder autour de moi. J'ai quelques souvenirs dont je suis à peu près sûr qu'ils sont personnels parce que je me vois tout seul, donc c'est un souvenir personnel, mais j'en ai aussi quelques-uns qu'on m'a raconté, donc c'est très difficile de faire la distinction entre les divers souvenirs.
Et Martin Winkler, la façon dont vous parlez de votre père, c'est la façon dont on parle plus souvent d'une mère juive. Il est très protecteur.
Oui, très protecteur, oui.
Il avait fait un stage en traumatologie.
Oui, il raconte, oui. Alors
donc il avait très peur que vous vous blessiez.
Oui, on s'est installé à Pithiviers, on s'est installé dans la maison du médecin qui était là avant lui. C'était une grande maison bourgeoise et il y avait un très grand jardin. Bon. Et évidemment, il est arrivé à un âge où mon frère et moi, on faisait du vélo et on disait, et d'ailleurs, nos parents nous ont offert des vélos. On a dit, on aimerait bien sortir avec nos vélos. Ah non, vous sortez pas. Comment ça, on sort pas? Vous avez le jardin, vous faites du vélo dans le jardin. Non, oui, mais enfin, on voudrait sortir, nos copains, ils sortent. Non, tu sors pas. Pourquoi tu sors pas? Et tu risques de te faire mal. Et alors après, plus tard, il m'a expliqué que quand il avait été externe, il avait été externe dans un service de traumatologie infantile où il voyait évidemment arriver que des enfants qui avaient eu des accidents de voiture, qu'on avait renversé dans la rue, qui étaient tombés à vélo, etc. Bon, j'ai dit oui, d'accord, mais c'est ce qu'on appelle typiquement un biais de perception, un biais de recrutement. C'est-à-dire que forcément, dans un service de traumatologie infantile, vous allez voir des enfants qui se sont fait mal. Ça ne veut pas dire que tous les enfants se font mal, vous comprenez? Et alors on faisait évidemment beaucoup de bêtises, mon frère et moi, dans le jardin, parce qu'il y avait un jardin, mais il y avait une cour en contrebas avec des escaliers. Il y avait 7 ou 8 marches, quand même. Et on descendait les marches à vélo, ce qui était extraordinairement dangereux, tout de même. Et puis, finalement, on a fini par sortir. Et puis, au début, ils nous disaient, d'accord, vous sortez, mais vous faites seulement le tour du pâté de maison. Et la maison est au milieu d'un îlot, entre une place et 2 rues. C'était vraiment un îlot très petit. Donc, faire le tour du pâté de maison, ça demandait environ 45 secondes ou 1 minute et quart, quoi. Bon. Et évidemment, on faisait plus que le tour du pâté de maison parce qu'il n'était pas là pour nous surveiller. Et quand j'ai passé mon permis de conduire, j'aime beaucoup cette histoire. quand je suis passé mon permis de conduire, que j'ai eu la chance d'avoir du premier coup, je suis rentré, j'étais à Tours, j'étais étudiant en médecine à Tours, je suis rentré de Tours. Et je suis arrivé un samedi en début d'après-midi, ma mère est allée me chercher à la gare Orléans, je suis arrivé un samedi en début d'après-midi, et au moment où on est arrivé, mon père sortait pour aller faire ses visites. Alors je l'ai arrêté comme ça dans la rue, je lui ai dit « donne-moi tes clés ». Alors, puis mon père, c'était une crème, il ne m'a pas posé de questions, il m'a donné les clés. Il monte dans la voiture, je l'ai fait monter à la place du passager, puis j'ai mis... Il me dit, t'as ton permis? Et j'ai dit, oui, j'ai mon permis. Ah, c'est bien, tu l'as eu quand? Je l'ai eu ce matin. Ferme la portière. Puis j'ai mis la voiture en marche et j'ai fait le tour du pâté de maison en voiture. Et j'ai dit, voilà ce que tu nous laissais faire quand on avait des vélos. Alors, il a rigolé, évidemment. Mais donc, pour inaugurer mon permis de conduire, je lui ai fait faire le tour du pâté de maison en voiture.
C'est un avantage, Martin McLeod, d'avoir un... Enfin, qu'est-ce que ça apporte de bon d'avoir un père surprotecteur?
Je crois qu'il vaut mieux. Bon, il y a eu des aspects négatifs dans la façon dont j'ai interagi avec mes parents. Aspects négatifs dont je me suis pas rendu compte sur le moment, hein, et dont ils se sont pas rendu compte eux non plus. Et ils ont fait vraiment du mieux qu'ils ont pu. Mais même s'il y a eu des aspects négatifs. Je veux dire, vous avez un père qui vous protège, ça veut dire, ou une mère d'ailleurs, parce que ma mère aussi, elle était très protectrice. Vous avez des parents qui vous protègent, ça veut dire que vous avez de la valeur. Et puis, ils étaient protecteurs, mais ils n'étaient pas abusifs. Je veux dire, ma mère, elle me... quand je suis devenu adolescent et que j'ai commencé à lui dire, écoute, maman, je vais m'habiller tout seul, elle n'était pas contente, mais elle ne m'a pas fait une scène pas possible.
Bon. Ça, vous trouvez que c'est un signe de mère?
Il y a des mères qui utilisent le. Ah. Ma mère d'ailleurs, qui avait beaucoup beaucoup d'humour, comme mon père, elle racontait cette histoire pour dire. Et là, on savait que c'était pas une mère abusive. Elle disait, tu connais l'histoire de la mère qui offre, qui a son fils et c'est son anniversaire, elle lui offre deux cravates, une rouge et une bleue. Et puis le lendemain, le fils il vient avec la cravate rouge et elle lui dit, pourquoi la rouge, la bleue te plaît pas? Ça, c'est une mère abusive. Mmh, c'est-à-dire, c'est une mère qui vous met dans des positions impossibles. Ma mère faisait jamais ça. Elle avait eu beaucoup de personnalité. Donc, quand vous êtes face à quelqu'un qui a beaucoup de personnalité, forcément, des fois, il y a des frictions, on se comprend pas, etc. C'était une femme qui pouvait s'attacher beaucoup et qui était très loyale, qui était très fidèle et qui s'occupait très bien de nous. Enfin. C'est sûr qu'il peut y avoir des inconvénients à avoir des parents protecteurs, mais enfin, il y en a moins que quand on a des parents qui vous maltraitent. Ça, je crois qu'il n'y a pas photo. Comme tout le monde, j'ai quelques petits comptes à régler avec mes parents. Je pense que mes enfants, que j'ai essayé de pas trop maltraiter, en auront aussi. Mais tout bien pesé, même si ça a des inconvénients, vaut mieux avoir des parents qui vous protègent. Et puis, j'avais des parents qui non seulement nous protégeaient, mais qui nous parlaient. Ils nous parlaient, on était importants pour eux. Ils nous parlaient, ils nous expliquaient. Moi, notre père, mon frère et moi, il nous a expliqué des flopées de choses. Enfin, il nous a raconté des flopées d'histoires. Ça, c'est vachement bien. Je veux dire, et il nous a raconté son enfance. Il nous a, bon, c'est pas rien d'avoir un père qui est allé jouer au foot avec Albert Camus, puis il le racontait volontiers. Donc, vous voyez, c'est forcément, ça vous fait un.
Est-ce qu'il parlait de politique, Martin Winkler?
Mon père parlait de politique. Mon père avait été au Jeunesse socialiste. Il parlait de politique volontiers. C'est marrant parce qu'il était très content que Mitterrand gagne, mais il n'aimait pas beaucoup Mitterrand. Il était content que la gauche gagne en 80, mais il n'aimait pas Mitterrand. Et ça faisait longtemps qu'il disait, moi, Mitterrand, je me méfie de lui.
À cause de l'Algérie?
Oui, à cause de l'Algérie, mais à cause de beaucoup, beaucoup de choses. C'était quelqu'un qui faisait pas confiance. C'était plutôt un admirateur de Mendès France, quoi. Mendès France, ça, c'était son homme politique. Il avait toujours été à gauche. Il avait même été... j'avais retrouvé un jour, à la fin des années 30, il y avait eu... Une confrontation très violente entre... des musulmans et des Français dans une ville d'Algérie. Et il y avait eu des représailles. Et ils avaient publié avec des copains à lui, ils étaient tous juifs d'ailleurs, un papier disant « Ouais, mais enfin, si les musulmans se sont énervés, c'est parce qu'ils sont aussi maltraités depuis X perpète. »
Ouais.
Bon, c'est-à-dire que c'était quand même singulier de dire « Attendez, ouais, d'accord, mais enfin, il y a eu plus de ratonnades qu'il n'y a eu de soulèvements de musulmans contre les Français, et puis il faut voir aussi ce qu'ils subissent. » Faut pas oublier que les musulmans n'ont eu le droit de vote qu'en 47, par là. Hein, bon. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment un homme de gauche. Hein, il a toujours été un homme de gauche. Il lisait Le Canard Enchaîné et il lisait Minute. Alors,
ah, ouais.
Et alors, je disais, alors, bon, moi, j'allais regarder Le Canard Enchaîné, puis un jour, je prends Minute, je dis, mais pourquoi tu lis ça? Parce que, évidemment, c'était pas son bord du tout. Et il me dit, bah, parce que il faut savoir ce que tes ennemis pensent. Puis c'est un homme curieux, quoi. Mmh. Il était ouvert, paradoxalement, ma mère lisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fiction, beaucoup de romans policiers. Je lisais Hitchcock Magazine, j'allais piquer Hitchcock Magazine dans cette table de nuit. Mais mon père, lui, il lisait surtout des livres d'histoire. Il lisait surtout des biographies, il lisait surtout de l'archéologie, de l'anthropologie, des choses comme ça. Il lisait pas de romans, en général. Très peu.
Pourquoi, Martin Winkler, vous étiez obsédé par la possibilité de perdre votre père?
Je pense que c'est l'épigénétique. Je vous explique. Il semble maintenant, je ne le savais pas, je peux le dire maintenant, mais je ne le savais pas à l'époque. Il semble, il y a des généticiens qui montrent que non seulement on transmet un bagage génétique qui nous vient de nos parents, de nos ascendants, mais il semble qu'on puisse aussi transmettre dans notre bagage génétique quelque chose qui a été greffé dessus pendant notre existence et qui est induit par nos expériences. Par exemple, si on a fait ça avec les souris, si vous soumettez une génération de souris à la famine, en fait, vous allez modifier non seulement leur comportement à cette génération-là, mais vous allez modifier aussi le comportement des souris des deux générations suivantes, qui vont se comporter comme si elles avaient été affamées. Alors qu'évidemment, ça ne peut pas être une transmission culturelle, vous comprenez? Bon. Et ça, c'est donc des fragments d'ADN qui ont été rajoutés et qui sont réactifs à l'environnement.
Et ça ne peut pas être une histoire d'inconscient, parce que les souris...
Non, attendez. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que pour que ce soit une question d'inconscient, il faut au moins... Alors, par exemple, Serge Tisseron explique que oui, par exemple, on peut transmettre à son enfant la peur du viol, parce que soi-même on a subi par exemple des agressions, et on peut le faire par contiguïté. Par exemple, il donne l'exemple d'une mère et d'une fille qui regardent un film. S'il y a une scène de viol et que la fille sent que la mère est très 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 bouleversée par ça, elle va intégrer le fait que voilà. Donc on peut le transmettre aussi comme ça. Mais il y a aussi, on voit aussi des gens qui ont des comportements qui ne s'expliquent pas par l'inconscient, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été au contact des gens qui ont vécu cette histoire. Donc moi je pense que c'est un peu des deux, mais ça pourrait au moins être de l'épigénétique. C'est-à-dire que mon père a perdu son père très très jeune. Et donc je pense que ça a beaucoup beaucoup marqué sa propre existence
à la guerre
de 14. Lui, il avait donc 2 ans, 1 an et demi, quoi, 2 ans. Et donc, je pense que c'était une transmission, peut-être inconsciente, peut-être épigénétique, de cette peur que, de ce chagrin, parce que en fait, ma peur, c'était une sorte de chagrin anticipé, vous voyez.
Mais vous écrivez dans les légendes, vous écrivez, ça m'angoissait plus de savoir que je pourrais rester seule avec ma mère que rester seule avec mon père. Si je perdais mon père, je restais seule avec ma mère.
Oui, mais ouais. Parce que c'est mon père qui avait besoin d'être consolé. Ma mère, j'aurais pas su la consoler. Et puis, je pense que c'est aussi parce que, pour des tas de raisons, j'étais plus proche de mon... C'est pas que j'étais pas proche de ma mère, j'étais plus proche de ma mère quand mon père est mort. Mais il y avait une relation, alors ça venait aussi beaucoup de lui, hein, j'étais son premier enfant, Ma sœur aînée, il l'a rencontrée parce que ma mère avait déjà eu cette première enfant, cette fille. Il l'a rencontrée, il l'aimait énormément, mais c'était pas son enfant. Et quand moi je suis né, j'étais la prunelle de ses yeux, quoi. Puis ensuite, il a eu un deuxième fils. Comme disait ma mère, quand il a eu un deuxième fils, il marchait 10 centimètres au-dessus du sol. Bon. Donc c'est sûr que j'ai bénéficié de cette puis il y a des photos, c'est très caractéristique, il y a des photos beaucoup avec moi sur les genoux de mon père, mais pas de moi dans les bras de ma mère. Et en fait, il y a une explication très simple, c'est que c'est ma mère qui les prenait, les photos. Lui, il prenait pas de photos. Ma mère m'a sûrement pris dans ses bras, mais personne n'était là pour la photographier. Donc pendant longtemps, j'ai cru que... Puis après, je me suis dit, non, c'était elle qui prenait les photos. Lui, il savait pas utiliser un appareil photo. Il n'aurait pas été capable de le faire. Alors qu'elle prenait les photos, elle filmait, etc. Elle nous a laissé des archives extraordinaires. On a des archives visuelles. Je veux dire, quelqu'un qui prenait des photos et des films à la fin des années 50, bon, ils avaient les moyens, mais il fallait aussi vouloir le faire. Elle l'a fait.
Et elle a fait des albums aussi.
Elle a fait des albums toute sa vie avec ses enfants, ses petits-enfants, etc. Oui, des archives photographiques, on en a des tonnes. Et c'est merveilleux, c'est précieux, quoi.
Et vous, Martin Winkler, vous avez combien d'enfants ?
Moi, j'ai été marié deux fois. J'ai eu trois enfants avec la première épouse et trois enfants avec la seconde.
Et vous êtes quel genre de père ?
Ça, faut demander à mes enfants.
Non, mais là, vous bottez en touche.
Je botte pas en touche.
À peu près.
Quel genre de père ? Pendant longtemps, j'ai essayé d'être aussi bien, aussi bon que le mien. Jusqu'au jour où je me suis dit qu'il fallait mettre la barre un peu moins haut, parce que c'est ça l'inconvénient. En fait, j'y pensais pas, mais c'est ça l'inconvénient d'avoir un père comme ça qui vous paraît parfait. C'est que vous aurez toujours le sentiment que vous serez jamais aussi parfait que lui. Et comme j'ai pas été un père parfait, je pense que j'ai un peu mieux réussi que mon père, parce que mes enfants ne me voient pas comme quelqu'un de parfait. J'ai de bonnes relations avec tous mes enfants. Je crois qu'ils m'aiment bien. Ils ont des reproches à me faire. Je trouve que c'est très sain. Ils me les font pas toujours directement, mais enfin, certains d'entre eux me les ont fait. Donc, ça veut dire que je peux les entendre. Autrement, ils pourraient pas me les faire. Quel genre de père je suis? Je suis un père qui a fait de son mieux pour protéger ses enfants de ce dont il fallait les protéger, mais pas trop. C'est-à-dire, je les ai jamais enfermés, quoi. Je les ai jamais bridés. Je leur ai jamais demandé d'être plus grand que leur âge. Mais d'un autre côté, je leur ai jamais dit t'es pas assez grand pour, ou tu peux pas comprendre. Pour vous donner un seul exemple, un de mes plus jeunes enfants, enfin des trois plus jeunes, qui est un des jumeaux, se trouve que j'ai eu des jumeaux, un jour est assis à côté de nous, de sa mère et de moi, en train de manger un yaourt. À cause de la conversation, il dit c'est quoi un homosexuel ? Il a 10 ans ou 11 ans. Et je lui dis, un homosexuel, c'est un homme homosexuel ou une femme homosexuelle, c'est quelqu'un qui a des relations sexuelles avec une personne du même sexe. Et puis, il dit, ah bon, et puis il retourne dans son yaourt. Donc voilà, j'ai jamais éludé les questions de mes enfants, et j'ai essayé toujours de leur donner des réponses qui soient acceptables et compréhensibles.
Merci Martin Winkler.
Merci.
Et à demain soir.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Lenné avec Martin Winkler. À voix nue, réalisation Doria Zénine, prise de son Jean-André Gianecchini, coordination Claire Poinsignon. Ces émissions s'écoutent en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.